Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Des planches, l'émission critique de Radio Campus, Radio Campus, la radio de l'Université libre de Bruxelles. Comme chaque mercredi, 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30, la petite demi-heure pour épingler la scène bruxelloise des arts de la scène, donc des spectacles. J'ai à mes côtés Nicolas à la technique et à la critique. Hello.
Salut.
Nicolas. Et alors on parlera des différents spectacles. Alors rien que les titres, je vais vous lire rien que les titres, c'est un poème en soi. On parlera donc des barbares, ils tentèrent de fuir, Amor Mundi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, dehors, devant la porte, intérieur, voix. Tous les titres des spectacles dont on parlera dans cette émission, un véritable poème. Mais ici, par téléphone, nous avons Soufiane El Boubsi, hein, comédien, auteur, metteur en scène. Bonjour, bonsoir Soufiane, est-ce que tu nous entends ?
Oui, je vous entends très bien.
Alors, en pleine répétition, et l'actualité danse, hein, donc ça commence cette semaine avec les barbares. En janvier, ils tentèrent de fuir, et en février, Amor Mundi. Comment un comédien gère les répètes ? C'est quoi ? C'est une répète sur l'autre ? Comment tu fais ?
Là, en ce moment, effectivement, c'est un petit peu acrobatique, parce que je suis en répétition donc sur Ils tentèrent de fuir, qui est une adaptation des choses de Georges Perec, qui va se jouer donc effectivement au Théâtre de la Vie au mois de janvier. Et en même temps, je vais être en représentation à partir de jeudi, là, le 4, au Marny, avec les barbares. Donc, je cours beaucoup. c'est pas toujours évident, mais voilà, il vaut mieux trop de travail que pas assez. Donc,
et ça
voilà.
Va, tu fais pas de cauchemar, tu ne confonds pas les textes dans ta tête. C'est toujours impressionnant pour nous qui n'étudions pas de texte, quoi, qui ne récitons pas de texte.
Ouais. Non, ça va. Heureusement, avec le métier, ça devient de plus en plus facile. donc ça va. Je ne confonds pas, heureusement.
Et la première pièce qu'on verra ici, donc dès jeudi au Théâtre Marny, c'est une reprise. Donc c'est Les Barbares. C'est un texte d'Amadi joué seul en scène par toi. Alors Amadi, bon, pour ceux qui vous connaissent un peu, on sait bien que c'est ton papa, mais c'est un conteur avant tout. Et quelle était l'envie ? C'était de se retrouver père et fils ou bien c'était vraiment le sujet ?
Non, c'est vraiment le sujet. Ben, disons que ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble, Amadi et moi. Donc on a créé en fait 4 spectacles ensemble, en tout. Et celui-ci, c'est le 4e. Disons que sur les 3 précédents, en fait, en gros, on a un petit peu échangé les casquettes, d'une certaine façon, depuis qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai joué des seuls en scène que lui a écrit et mis en scène. Lui a joué des seuls en scène que moi, j'ai mis en scène. Et ici, en fait, sur Les Barbares, c'est ce qui se passe, c'est que lui a écrit, met en scène, et moi, j'interprète. Voilà. Et c'est plutôt la thématique. Disons que ici en fait les barbares, de quoi ça parle, c'est simplement en fait le récit, c'est un réfugié clandestin qui raconte en fait sa trajectoire, c'est-à-dire depuis son enfance, sa vie là-bas, les raisons qui l'ont poussé à partir et puis toute la trajectoire d'émigration clandestine jusqu'à son arrivée ici chez nous. Voilà. Mmh.
Moi j'ai lu les extraits que tu m'as envoyés, donc prologue, épilogue et une scène, et on à la lecture, ou c'est peut-être moi, mais on sent une fine odeur comme ça de tragédie grecque. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que quand toi tu le lis, il y a cette atmosphère ?
Mais ce qui est sûr, c'est que en fait, il y a sans doute on peut retrouver effectivement l'ingrédient qu'on retrouve dans la tragédie, c'est-à-dire le fait de savoir qu'il y a quelque chose d'inexorable qui se met en marche et contre quoi on ne pourra pas lutter d'une certaine façon, puisqu'en fait, quand le spectacle commence, le personnage est déjà là, il est déjà ici. En fait, c'est une sorte de rétrospective de sa trajectoire. C'est comme s'il se réinventait, comme s'il se racontait à nouveau sa propre trajectoire. Donc, in fine, la fin, on la connaît, comme dans une tragédie, effectivement. Mm-hmm. Donc, l'objectif, en fait, c'était de redonner une histoire à ces gens. C'est-à-dire que très souvent, quand on parle d'eux, quand on aborde cette problématique-là, la problématique de l'immigration clandestine, et on voit qu'elle est d'actualité, d'une actualité frappante à l'heure actuelle, avec tous ces bateaux de migrants, et au moins une fois par semaine, on entend l'histoire d'un nouveau bateau, d'un nouveau naufrage, de gardes-côtes qui ont récupéré des gens. Mais très souvent, on en reste à l'endroit des chiffres. C'est-à-dire qu'on dit combien il y en avait, mais on a même rarement un nom. simplement. Mmh. Et nous, ce qu'on voulait, c'était remettre un nom, remettre une histoire sur ces numéros, en fait, sur ces chiffres. Parce que je pense que c'est très facile de rester loin, lointain de ces problématiques, de finalement de ne pas se pencher dessus, de ne pas y réfléchir quand ça passe en, comme ça en deux secondes et qu'on nous donne un numéro. Ils étaient 124, voilà. Mais si on prenait le temps de détailler l'histoire de ces 124 personnes, je pense que la problématique se poserait d'une façon beaucoup plus forte. C'est-à-dire que dès qu'on a accès à l'histoire de quelqu'un, ben, inévitablement et immédiatement, on se met à sa place. Simplement, on est dans un rapport d'empathie qui est beaucoup plus grand. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était ça. C'était remettre une histoire sur un numéro.
Tu parlais de ta collaboration avec Amadi hein, sur plusieurs spectacles. Des spectacles qui avaient pour point commun de travailler sur les racines, sur la mémoire, sur la transmission. Est-ce que le travail s'est passé de la même façon? On sait que vos précédents spectacles partaient beaucoup de vous, ou en tout cas de témoignages. Est-ce que ça a été le cas aussi ici, partir de témoignages et de transmission de paroles pour ces gens qui ont un avenir assez compliqué devant eux? Ils n'ont plus qu'à raconter leur passé quand on les voit sur scène.
Oui, tout à fait. Mais écoute, disons qu'ici, en fait, c'est une pure fiction. Donc, c'est pas un spectacle qui s'inspirerait d'un témoignage qui nous aurait été rapporté. On n'a pas fait particulièrement de travail d'enquête où on aurait été interviewé ou questionné les gens. C'est vraiment une fiction. Je pense que c'est une constante dans le travail d'écriture d'Amadi, c'est-à-dire que ça se base toujours sur un terreau bien réel, sur des choses qu'on peut observer autour de nous. Mais la constante, parce que je crois que c'est une de ses préoccupations en tant qu'artiste, c'est toujours d'essayer de sublimer le réel à travers la fiction. C'est-à-dire de penser que finalement, raconter une histoire, in fine, en prenant de la distance par rapport au réel, finit par nous faire accepter le réel beaucoup plus fort, d'une façon beaucoup plus prégnante, j'ai envie de dire. Donc ici, c'est vraiment une fiction, c'est quelque chose qu'il a écrit. Alors bien sûr, il y a dans cette fiction des rapports, des éléments et des histoires qu'il a entendues, y compris dans notre propre cercle familial, parce qu'il y a des gens dans le cercle familial lointain, puisque nous sommes issus de l'immigration, mais depuis trois générations maintenant, donc nous sommes belges, nous vivons ici, mais nous avons entendu des histoires. Donc effectivement, il y a toujours ce background, je dirais, cette trame, ce point de départ qui est le réel. Mais après, l'objectif, c'était de nouveau de travailler sur la fiction, d'essayer de dépasser ce cadre-là aussi pour atteindre à l'universel, pour ne pas rester coincé sur une histoire personnelle qui nous aurait servi de point de départ. Quoi.
Mais justement, le personnage, donc le seul en scène, j'avais deux questions. D'abord, est-ce qu'il a un nom? Est-ce qu'on sait le situer? Et alors, pourquoi vous êtes parti sur le seul en scène?
Alors, on est parti sur le seul en scène. En fait, d'abord simplement parce que c'est vrai que le seul en scène, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, qu'Amadi fait depuis très longtemps. Moi-même, j'en ai joué quelques-uns. C'est une forme en fait qui nous est assez naturelle. Et je pense que c'est une forme que nous maîtrisons assez bien, entre guillemets. D'autre part, ici, pour le personnage, en fait, le point de départ, c'est un personnage qui est enfermé et qui est enfermé de par la scénographie, qui est en fait c'est un espèce de cercle de 5 mètres de diamètre avec de la terre rouge dessus. Donc ça donne l'impression d'une arène ou d'un espace circulaire dont on ne s'échappe pas en fait et qui figure symboliquement ce qu'on pourrait appeler le petit château ou les centres fermés ou enfin tous ces centres de rétention, de réclusion de sans-papiers. Et donc il nous paraissait essentiel que cette parole là, ce soit comme la résonance du dernier récit que ferait quelqu'un seul dans une cellule en fait, mais qui ici est évidemment partagé avec le public dans un rapport direct et dans une adresse immédiate.
Alors le titre peut paraître aussi un petit peu provocateur parce que vous voulez expliquer un petit peu ou raconter l'histoire de ces gens, les débarbariser, entre guillemets. Alors vous les appelez les barbares d'entrée de jeu. Mais qui sont les barbares?
Voilà, moi je voyais l'Occident. C'est marrant.
Ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que chacun peut y voir ce qu'il veut. C'est ça qui est magnifique. Mais effectivement, disons que les barbares, en fait, c'était aussi lié à l'étymologie. C'est-à-dire que le barbare, à l'origine, c'est un mot grec. C'est un mot grec qui désigne ceux qui ne parlent pas le grec, qui viennent de l'autre côté de la mer, donc de l'autre côté de la Méditerranée, qui est ce berceau que nous partageons tous, en tout cas toutes les cultures méditerranéennes. Et l'objectif, c'était effectivement de dire d'une certaine façon, le barbare, c'est l'autre, c'est l'étranger, c'est celui qui vient d'ailleurs. Et puis il y a après la connotation qui est arrivée plus tard, après le monde grec, et qui voudrait dire et qui viendrait finalement nous dire que le barbare, c'est le sous-développé d'une certaine façon. Même si dans un premier temps, le mot ne portait pas cette connotation-là à l'origine. Et je pense que ce qu'on voulait faire, c'était nous resituer d'abord le terme au premier niveau, celui simplement de l'autre, l'étranger, l'altérité, et est-ce que l'autre finalement est si différent de nous? Est-ce que les raisons qu'il pousse à partir ne sont pas finalement des raisons qui sont celles qui pousseraient tout un chacun à partir si on vivait dans la même situation? Et je pense que ça, c'est une question très importante parce qu'on le voit bien à l'heure actuelle en Europe où on vit une crise économique sans précédent. Moi, je ne sais pas si peut-être dans 15 ans ou dans 20 ans, mes enfants ou mes petits-enfants ne seront pas dans la peau de ceux qui doivent partir, en fait. Est-ce que nous ne serons pas, nous, Européens, dans 50 ans, les barbares d'un autre, le barbare d'un autre, le barbare de l'Américain, le barbare du Chinois? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que dans 30 ans, est-ce qu'il y aura ici une situation peut-être où il n'y aura plus de travail, où les gens vivront dans une misère crasse et où il faudra peut-être s'en aller? Cette question-là, je pense que c'est une question fondamentale parce qu'on a tendance souvent, nous, à penser qu'on vit dans une région du monde qui est favorisée, privilégiée, où nous vivons plutôt bien. Et on a parfois l'impression que c'est coulé dans le marbre, que ça a toujours été comme ça et que ça le sera toujours. Mais il suffit de remonter un petit peu dans l'histoire de l'Europe, au 19e siècle, au 18e siècle, pour se rendre compte qu'il y a des vagues d'émigration qui partent de l'Europe pour ailleurs. Et finalement, cette question-là, cette prise de conscience-là, je pense qu'elle est assez importante parce que, effectivement, les équilibres mondiaux montrent aujourd'hui que peut-être demain, ces équilibres tels que nous les connaissons aujourd'hui seront complètement différents. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être que c'est nous qui serons les étrangers, les barbares dont on ne veut pas ailleurs.
Justement, avant de lire un épilogue, hein, merci déjà pour la lecture par téléphone à l'artiste, on va dans ta nouvelle création, la toute fraîche qu'on verra en janvier au Théâtre de la Vie. Ils tentèrent de fuir, et là on est dans le monde de Pérec, des choses, donc en Europe ultra consommatrice, années 70.
Exactement.
Quelle était l'envie? Et donc c'est une adaptation du roman?
Oui, c'est ça. En fait, à l'origine de ce projet, il y a donc un ami à moi qui va faire la mise en scène avec moi de ce spectacle qui s'appelle Joachim Hollander et qui est réalisateur. Et lui, en fait, avait produit et écrit un long métrage sur base des choses. Et on avait énormément échangé sur cette problématique parce que je pense que c'est aussi une problématique qui est éminemment contemporaine, très très prégnante, parce que je pense qu'on arrive, nous, à des stades de notre société de consommation qui sont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus développés qu'à l'époque de l'écriture du roman, puisque c'est un roman qui a été écrit en 1965, et ce qui nous a frappé, c'est sa modernité, c'est le fait qu'il est totalement contemporain, et finalement, il parle d'aujourd'hui d'une façon stupéfiante. On a presque l'impression que ça a été écrit hier. Et donc, vraiment, en ayant ces discussions, en travaillant là-dessus, finalement, moi, j'ai proposé à Joachim, j'en suis venu à lui proposer de le faire au théâtre, en fait, parce que c'est mon média, c'est la scène qui me passionne et qui me fascine. Et puis, comme le projet au cinéma est dans un tiroir, il y a une coproduction, mais il n'y a pas assez de coproducteurs pour le faire, etc. Donc, il est un peu en stand-by. Et du coup, Joachim trouvait que c'était une super idée. Et donc, on a décidé de se lancer là-dedans et de le faire effectivement au Théâtre de la Vie, là, au mois de janvier.
Donc, sur scène, on retrouve le couple. Et alors, apparemment, il y a de la vidéo?
Oui, tout à fait, oui. Oui, parce que je pense qu'on est aussi à un endroit de l'histoire où les images elles-mêmes sont devenues des objets de consommation. C'est-à-dire qu'on consomme des séries et des films comme on consommerait de la nourriture. Je crois que la prégnance de l'image, on vit dans une société de l'image, et la prégnance de l'image est tellement forte que c'était quasiment impossible de faire sans, en tout cas aujourd'hui. Ouais, donc il y aura un mélange de textes, de vidéos, et l'objectif, ce sera effectivement de rendre compte de ce qui arrive à ce couple dans cette histoire, puisque c'est un couple qui est petit à petit submergé en fait par cette espèce de machine à désir qu'il y a tout autour de nous et qui sombre peu à peu en fait, et qui finit par tenter de fuir, comme le dit le texte. Voilà, la question que ça pose, c'est est-ce qu'on peut fuir et où aujourd'hui? Est-ce que c'est encore possible seulement? Peut-être que dans les années 65-60, on pouvait penser qu'il était encore possible de fuir dans un ailleurs, mais est-ce que c'est encore possible aujourd'hui?
Et troisième création, là on est complètement encore un bond en arrière, là on est dans Anna Arendt, donc Amor Mundi. Et donc c'est une mise en scène de Myriam Sadoui. On sait qu'elle prend, elle travaille vraiment ses pièces en amont longtemps à l'avance. Et alors, quel rôle as-tu?
Alors moi, je joue Hans Jonas, qui est un philosophe qui est en fait aujourd'hui le philosophe le plus lu aujourd'hui. qui est un peu le père de l'écologie politique, en fait. C'est lui qui a écrit une œuvre qui s'appelle Le principe responsabilité et qui, en fait, met en avant la question de la responsabilité vis-à-vis des générations à venir. Est-ce qu'on peut tout faire? Est-ce que technologiquement, on peut tout se permettre? Est-ce qu'on ne doit pas, à un moment donné, prendre en compte le fait qu'il y a des réserves, des limites qu'on doit se poser nous-mêmes dans l'intérêt de la nature, de la Terre et des générations à venir? Donc moi, c'est le personnage que j'interprète. Et lui, en fait, est le grand ami d'Anna Arendt, qui est au centre du spectacle. Et ils se connaissent depuis qu'ils sont très, 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 très jeunes. Ils ont fait leurs études ensemble en Allemagne avant la montée du nazisme et avant leur exil. Et donc, en fait, je crois que ce que voudrait faire Myriam, c'est remettre sur le plateau ce qu'elle appelle la tribu, en fait, ce qu'Anna Arendt appelait sa tribu, puisqu'en fait, il y a un espèce de petit groupe de 5-6 philosophes qui en fait, ont connu le même destin, celui de l'exil, celui de la difficulté d'être confronté à ce qui s'est passé en 40-45 en Europe, et puis qui ont recréé une espèce de famille... de familles intellectuelles, de familles par défaut, et qui ont en fait les uns et les autres produit chacun des œuvres majeures de la philosophie du XXe siècle. Et ce qui l'intéressait, c'était de voir comment le privé, les relations individuelles qu'on peut avoir dans la vie, comment le privé peut faire naître en fait une pensée philosophique. Comment en partant des événements d'une vie, du plus intime en fait, et des relations qui sous-tendent cette intimité, comment est-ce qu'on peut développer une pensée et comment est-ce que cette pensée se développe en fait ensemble à travers les relations qu'on a.
Eh bien, dis donc, que de rencontres sur les planches, hein. Anna Arendt, Perec, les barbares. Avant de terminer, donc on en parlera en cours de route, avant de terminer, tu nous offres ton épilogue.
Oui, vous dis ça.
Merci.
Mais avec plaisir, merci à vous. Je suis là. Je ne vous tourne pas le dos. Je vous regarde droit dans les yeux. Parce que regarder droit dans les yeux, c'est tout ce qui me reste. Je suis venu de loin. Je ne suis pas noir. Je ne suis pas blanc. Je ne suis pas de teint olive, mat de peau. Je ne suis ni chrétien ni musulman. Je suis issu du royaume misère. Et la misère, vous le savez, est une tuberculose qui vous ronge le cœur, le foie, les entrailles. Je ne vous tourne pas le dos. Je vous regarde droit dans les yeux. Mais vous ne me regardez pas. Vous ne regardez rien, vous ne regardez personne. Regarder dans les yeux, c'est déjà se trahir, c'est déjà donner un peu. Mais vous vous cachez derrière des lunettes de soleil parce que le soleil pourrait abîmer vos fragiles yeux bleus d'azur. Vous ne me regardez pas. Pourtant, je suis là. Et toutes les nuits, je fais le même rêve. Mon père crie sur ma mère et je n'entends rien. Mes frères parlent et je n'entends rien. Mes sœurs chantent et je n'entends rien. La pluie tombe et je ne sens pas les gouttes sur mon visage. J'aimerais tellement qu'on m'injecte un vaccin qui me fasse tout oublier. Je suis là, parmi vous, assis sur le seuil de la vie et de la mort, les yeux baissés, les mains vides. Et la mer dont j'entends le bruit est une mer qui ne rend jamais ses noyés.
Extrait des Barbares par Soufiane El Boubsi, qui sera seule en scène au Marny cette semaine. Un texte écrit par Amadi. Les dates, Nicolas ?
Alors, ce
du
sera
4 au 14.
Voilà, fait le travail à ma place. Très
il
bien.
Sait son agenda.
Mais j'étais... Même par téléphone, on dirait un message laissé sur un répondeur.
Oui,
c'est
ça.
C'est formidable.
C'est très beau. Merci, Soufiane. Et bon boulot hein, dans les 3 mois à venir sur
Mais
la
oui,
planche.
Je...
Au revoir.
Je prends. Ouais, merci à vous. Bonne soirée.
La constellation.
Et oui, on met à bas, même sur Radio Campus. The day before you came.
Tu oses.
Mais oui, j'ose. Alors. Dans la conspiration des plans, j'ose tout.
Alors, à bas, pourquoi ? Parce que ça fait partie d'un spectacle à voir au Théâtre National, deux spectacles de jeunes créateurs. Ici, c'est Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups de l'actrice, de la comédienne Olivia Carrère que Nicolas, tu as vu.
Oui, tout à fait. Olivia Carrère qu'on avait vu dans Life Reset. Presque sans mots d'ailleurs. Hein,
sans spectacle. Parole, elle était époustouflante. On lui avait donné le prix de la jeune comédienne.
Et ici, elle nous emmène dans sa petite réflexion sur Est-ce qu'on est obligé d'être heureux aujourd'hui? En tout cas, elle fait le constat que la société nous l'impose un petit peu, que ce soit les modèles qu'on nous expose dans les médias, dans la publicité, même dans les théories psychologiques, où on voit des coachs de développement personnel survenir de partout, et on se dit, mais mince, merde, on peut le dire. Est-ce que je suis obligée d'être mariée, d'avoir des enfants et d'être heureuse avec ça? Est-ce que je ne peux pas et être heureuse autrement? Et est-ce que je ne peux pas être malheureuse avec ces éléments-là aussi? Voilà, c'est un peu le credo, ou en tout cas la thèse d'Olivia Carrère dans ce spectacle. Un spectacle qu'elle a laissé mûrir eh bien, pendant un petit temps, et qui lui a permis d'abord d'écrire là-dessus, d'aller rechercher aussi plein de choses. Elle convie plein d'autres références, d'autres auteurs. Et aussi, elle a des talents d'auteur-compositrice et elle vient nous les offrir en chantant ses propres compositions. Elle ajoute à bas qu'on vient d'entendre, évidemment, parce que toutes ces chansons, au fur et à mesure, eh bien, se répondent. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis malheureux? Et il y a aussi un texte qui est mis en musique, qui est un peu slamé. C'est le texte d'Achille Chavée, « Je te dis merde », qui est utilisé dans ce spectacle. C'est une sorte de one-woman show, dans la forme, avec des moments musicaux, comme ça. Un très, très joli travail vidéo, aussi, qui vient soutenir les chansons, surtout. Après, le reste, ça fait vraiment du one woman show, de l'adresse directe au public, un peu d'interpellation comme ça, sans en exagérer et sans en abuser. Et au final, qu'est-ce qu'on en retient de cette réflexion d'Olivia Carrère? J'ose dire que j'ai été un petit peu sur ma faim, parce qu'au début, on se laisse emporter. Ça parle, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais ça peut parler à beaucoup de gens qui se retrouvent dans la même situation, qui sont célibataires, qui font un peu leur chemin de vie, qui n'ont pas d'enfants, etc., qui ne voient pas dans la construction du foyer traditionnel familial l'ultime Eldorado. Mais voilà.
Mais en lisant le texte, bon, c'est au-delà de la femme célibataire, il y a aussi les enjeux du monde où on n'a pas de vision, pas d'idole. Elle dit voilà. À un moment donné, on n'a même pas de tabou. Tu vois, on n'a rien, on n'a pas de combat en fait visible.
Parce qu'il y a aussi une question très importante. Est-ce qu'on peut être heureux sans idéologie aussi qui est posée, sans religion aussi? C'est pour ça que le titre réfère à une histoire biblique, à une sorte de parabole.
Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais d'ailleurs il y a Dieu, elle rencontre Dieu à un moment donné.
Elle rencontre Dieu, ça clôt le spectacle. Il n'empêche que c'est un très beau point de départ, mais on aurait aimé que ça aille un tout petit peu plus loin, qu'elle gagne encore un petit peu en assurance. C'est la première fois qu'elle est seule en scène à parler, à s'adresser au public comme ça et avec son propre matériel. Voilà, je crois que c'est un projet qui doit encore mûrir et qui connaîtra en tout cas peut-être encore des évolutions, parce que ça reviendra au Festival de Liège en février prochain.
Deuxième spectacle, toujours au National, par Jeune Création, c'est Dehors devant la porte que dehors tu as vu.
Alors c'est une jeune création d'une jeune compagnie What's Up, on les avait vus avec le projet Babel Air. Maintenant ils sont sur la scène du studio du National, avec un texte assez intéressant de Wolfgang Borchert, qui était un artiste allemand de la moitié du siècle, et il était un peu subversif, ça ne plaisait pas beaucoup à Hitler, qui l'a envoyé sur le front de l'Est. Et quand il est revenu du front comme soldat, il n'a pas très bien supporté la transition. Il en est mort d'ailleurs, il s'est suicidé suite à ça. Ce texte parle de lui, parle de cette histoire. Et c'est vraiment un texte écrit dans l'urgence, où il lance des appels à l'aide vis-à-vis de la société allemande aussi, qui le rejette alors qu'il était parti pour la défendre. Hein, c'était ça l'idéal. Et la tombée du nazisme, tout le monde renie aussi ça, voilà, parce que bon, tous les Allemands n'étaient pas pour Hitler également, mais c'est la place de ces gens qui ont participé dans la société, comment elle se reconstruit et comment on peut revenir en ayant vu des ignominies sur le front de l'Est.
Dans leur note d'intention, elle parle de l'adapter à aujourd'hui, toujours l'idéal, l'individualisme, nos actes.
Oui, bien sûr, c'est la liberté de nos actes, mais ici ça pose quand même question, parce que il n'a pas été libre de ses actes jusqu'au bout, malheureusement pour lui, Wolfgang Borchert. Ce qui est intéressant, c'est de voir le travail qu'elles ont fait, Héloïse Maire donc, à la mise en scène, et Cécile Lupin à la scénographie, en mettant une sorte de tas de boyaux comme ça géants qui réfèrent un petit peu le fond de l'Elbe et d'où sortent des cadavres, mais aussi la mort qui vient nous interpeller comme ça en début de pièce pour nous dire ben voilà, je m'occupe des corps, je m'occupe de vous, vous serez soulagés, etc., etc. Et on assiste alors à la première rencontre avec ce soldat qui va tomber du ciel, qui va tomber dans l'Elbe avant d'être pêché et de rencontrer plusieurs personnages. Il y a des scènes quand même assez fortes. Il y a la scène où il va chez son colonel qui est en train de dîner en famille et il lui pose plein de questions. Il dit « Colonel, est-ce que j'ai encore ma place dans la société? Est-ce que la responsabilité ne vous incombe pas aussi de me reclasser dans la société qui ne veut plus de moi actuellement? Voilà, est-ce qu'on peut être responsable seul? On ne peut pas laisser mourir le mot responsabilité. » C'est une pièce éminemment pacifiste, évidemment. D'ailleurs, c'est ce dont l'accusera le colonel dans la pièce, et qui est très forte. Maintenant, on sent que le travail était très fort sur la scénographie, sur nous transmettre le message avec une structure, parce qu'il y a un circassien aussi qui intervient sur la structure, qui est là comme une sorte de conscience du soldat avant qu'il saute, comme ça. Et on a l'impression qu'on a voulu faire un très, très bel objet. Mais malheureusement, parfois, il ne faut pas oublier la direction d'acteur. Et c'est là que j'ai un peu quelques bémols à mettre à ce projet. Il manque parfois de modération, de modulation dans le jeu. Dans la scène du colonel, par exemple, là, le cri s'explique, mais doit-il s'expliquer tout le temps? Voilà, et doit-il se justifier tout le temps? Voilà donc pour Dehors devant la porte.
Deux spectacles à voir au Théâtre National.
Oui, tout à fait. C'est jusqu'à ce 6 décembre. Toutes les informations, théâtrenational.be.
Alors, on a quelques minutes pour vous parler d'Intérieur Voix, nouvelle création au Rideau de Bruxelles. Mais promis, on en reparlera plus longuement la semaine prochaine avec Catherine, qui a aussi adoré le spectacle. C'est un petit bijou. Alors, l'histoire démarre sur, on va dire, une trame simple et en même temps éminemment tragique. C'est une comédienne, un jour sur scène, perd la voix. Elle a un grand rôle, elle joue une tragédie grecque. C'est une comédienne belge qui se retrouve en tournée au Québec et elle sent qu'elle perd la voix. On est dans les environs du 11 septembre, elle revient ici angoissée, elle sent. Et pendant 7 ans, comme ça, elle va aller de médecin en médecin. Elle arrête son métier, évidemment, et c'est sa propre tragédie et son propre chemin pour essayer de retrouver sa voix. Et en fait, c'est cette espèce de chronique de voix perdue et retrouvée que nous propose Delphine Salquin, qui est sur scène, qui est toute la première partie muette. Elle est avec son matériel qui l'a suivie pendant 7 ans. Elle a son petit tableau pour nous écrire des mots. À côté d'elle, elle a de superbes complices, Pierre Sartenard, Isabelle Dumont et Raymond Delpierre. Raymond Delpierre, qui est un homme de l'ombre, hein, qui fait la régie et la musique au Rideau de Bruxelles et qui est sur scène. Alors c'est éminemment touchant parce que c'est l'homme de voix, l'homme de son qui est sur scène et qui va accompagner ce quatuor. C'est un théâtre de chambre très intéressant. Et alors ce qui est bon, l'histoire est émouvante, elle n'est pas... C'est pas mièvre, c'est vraiment avec des notes d'humour. J'ai trouvé que c'était un spectacle très poétique et très intellectuel, dans le bon sens du mot. Pour moi, intellectuel, ça reste un bon sens de mot. C'est-à-dire qu'on va traverser aussi l'histoire des cordes vocales. Donc, on va voir une espèce d'image d'anatomie. Isabelle Dumont, qui est très fort dans l'idée de conférence-spectacle et dans son élément. Et elle nous explique comment fonctionnent les cordes vocales. On verra une onde magnétique, électromagnétique sur scène. Il y a des choses très, très sobres. Il y a le son qui se met en rapport. Et puis, il y a du matériel très étonnant. Donc, elle a enregistré ses exercices dans un dictaphone. On les entend. On voit le passé sonore, les rires d'enfants, de famille. Il y a tout un voyage sur le passé qui nous emmène finalement jusqu'au moment du crime, on va dire, de la pièce, où là, coup de théâtre, Delphine Salquin reprend sa voix et termine la scène qui l'avait, à un moment donné, déboussolée. C'est un travail très étrange parce que c'est très beau avec du matériel. Par exemple, on a toutes des séries de fiches de médecins qui sont lues. Alors, ça paraît, on se dit, mais comment ils ont osé lire des fiches de médecins? Et pourtant, ça prend tout son sens et c'est superbement joué par ces quatre. Il y a des voix qui sont transformées par micro, qui donnent toute une saveur à ce voyage. Et donc, c'est vraiment rejoindre l'intime d'une voix perdue, d'une comédienne, son histoire. Et en même temps, ça rejoint l'universel et ça montre la fragilité et l'identité de notre propre voix. C'est vraiment un très, très beau spectacle à voir au Rideau de Bruxelles. Mais on en reparlera avec Catherine qui a adoré ce spectacle la semaine prochaine. Ainsi se termine la conspiration des planches. Je redis le poème des titres dont on a parlé. Les barbares, ils tentèrent de fuir. Amor mundi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. dehors, devant la porte, intérieur toi. Bonne planche et à la semaine prochaine.
Salut, salut, et toutes les infos sur ce spectacle sur radiocampus.be. À la semaine prochaine.
Constelación.